Radio Cirnéa, Radio Cirnéa. Aujourd'hui, toujours avec les éditions Maya, hein, Pierre-Antoine. Voilà.
Merci de nous accueillir.
Bah oui.
Pierre-Jean.
Hein? T'as pas, ton mentor n'est pas là aujourd'hui.
Ange, non, le chef, le chef des éditions Maya n'est pas là, mais bientôt il reviendra.
Très bien. Tu es venu avec avec un écrivain.
Oui, je voulais vous présenter un écrivain.
Jean-Claude Lemonnier.
Hein? Voilà, qui a écrit un roman historique et
comme son nom l'indique, il est pas tchèque ou machin. Non, c'est
il va nous parler de qui il est et il a écrit un très beau roman qui s'intitule Monsieur Rose.
Oui.
Et on va parler de lui ce soir si tu es d'accord.
Je connaissais un certain Monsieur Rose, mais il n'y avait pas d'S à la fin.
Alors, il va nous expliquer pourquoi ce titre, peut-être.
Voilà,
on peut commencer par là, Jean-Claude.
Je pensais à Mitterrand qui se baladait avec une seule rose.
Ouais,
et
oui,
Monsieur
oui.
Rose, mais avec...
Alors, pourquoi Monsieur Rose, Jean-Claude, explique-nous un petit peu pourquoi ce
titre. Alors, Jean-Claude, attends,
on ne va
pas Jean-Claude, démarrer ouais, tout de suite comme ça. Hein.
Excuse-moi.
Hein.
Ah, moi, je suis pas un homme de radio comme ça.
C'est très bien. Non. Il n'y a aucun problème. Bon, d'abord, Jean-Claude, il faut qu'il nous dise d'où il vient, hein, comme ça. Tu sais, en Corse, alors on pose ce genre de questions, d'où tu es, qui tu es. C'est facile.
D'où tu es et de qui tu es.
Ah oui, bah oui, eh oui. D'où es-y, d'igual et n'es-y. Voilà, c'est-à-dire, tu es le fils de qui. Voilà, tu vois.
Bonsoir à tous, merci de m'accueillir. Je suis entouré de gens très sympathiques sur une table ronde. Et Monsieur Rose, en fait, porte un S parce qu'il y a plusieurs roses dans le roman.
Oui.
Et en fait, je suis le fils de mon papa et de ma mère. Je n'en connais pas d'autres, enfin, à moins que je sois absolument, au-delà du S, une seule rose sans épine.
Oui, très bien. Bon. Sachant que les garçons naissent dans les choux et les filles dans les roses, hein, on le sait ça. Hein, hein, donc,
oui. Oui, donc je vous présente mon troisième roman,
oui.
Qui est un peu différent.
C'est un roman policier, je vois.
Pas essentiellement. Avec Pierre-Antoine, on a décidé de l'intituler ou de le mettre dans la comme un roman d'époque, en fait. Hein, un roman d'époque, parce que ça se passe au 19e siècle.
Oui.
Et je pense qu'au début, je n'étais pas tout à fait d'accord avec Pierre-Antoine, mais j'ai trouvé qu'il avait tout à fait raison par la suite, parce qu'on ne peut pas le classifier. On ne peut pas le classifier pour deux raisons. C'est-à-dire que c'est un roman qui est effectivement sur les roses, sur l'amour des fleurs, sans les épines, mais ce n'est pas que ça, c'est aussi une histoire d'amour, c'est aussi une histoire surréaliste, il se passe des choses incroyables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vous raconter, je ne peux pas vous raconter cette histoire, c'est simplement quelque chose, c'est une personne, si vous voulez, un monsieur, un jeune homme, beau, affriolant, qui a plein d'ambition, une ambition incroyable, on en connaît aujourd'hui, et il y en a encore, et il y en aura toujours.
Heureusement.
N'est-ce pas? Et donc ce monsieur, ce jeune homme, va avoir la chance de travailler au Bon Marché, donc un magasin parisien qui est l'un des plus beaux, je pense, aujourd'hui, qui existe encore.
Donc à l'époque, il venait d'être créé ou pas loin, non?
Absolument, absolument. Il a été créé, je crois, dans les années 1860.
Oui, autour de ça, oui.
Et donc, voilà. Donc, il a la chance donc de devenir vendeur. Il est d'abord petit vendeur, tout petit vendeur, rue du Bac. Il est juste un petit artisan. Il apprend son métier. Et il a la chance de rencontrer Monsieur et Madame Boussicot, donc les patrons du Bon Marché. Et de là va naître une histoire, c'est-à-dire qu'il va devenir un très bon vendeur. Monsieur et Madame Boussicot, que vous connaissez tous, avec l'hôpital Boussicot, un homme extraordinaire, une femme extraordinaire qui s'appelle Marguerite Boussicot, qui était une femme absolument admirable, va prendre en amitié et plus qu'en amitié, puisque ça va devenir presque quelque chose de fraternel et de comme son fils en fait. Et Monsieur et Madame Boussicot n'ont pas d'enfants. Ils vont prendre ce garçon qui va réussir à faire des merveilles dans la vente, qui va devenir un personnage incroyable. Alors on mêle tout dedans, hein, attention. On met les rayons, on met les roses, on met les parfums, on met tout ça. Et en fait, à la fin, Monsieur et Madame Boussicot, on termine le chapitre. Sinon, je vous explique tout le livre et je ne serai pas à cette place pour vous le proposer. Et ce jeune homme va avoir un destin différent, c'est-à-dire qu'à 34 ans, il va être tellement riche parce qu'il va recevoir l'héritage de Monsieur et Madame Boussicot, vivre une autre aventure. Et cette autre aventure est liée notamment au titre, c'est-à-dire que là, on est vraiment chez Monsieur Rose, vous voyez, chez Monsieur Rose. Il y a une histoire d'amour, l'amour est partout, elle est régionale, elle est internationale, et l'amour, c'est ce qu'il y a de plus beau au monde, bien sûr. Tout le monde le sait. Même autour de... Qu'est-ce que tu en penses?
Oui. Vas-y.
Qu'est-ce que je pense de quoi, Jean-Claude? De l'amour?
Oui, de l'amour.
Oh là là, non, ça c'est... C'est pas le bon sujet.
Non, mais par contre, tu
n'as pas répondu à la question qu'on se pose tous. Pourquoi le mot rose? Pourquoi Monsieur Rose? Comment les roses interviennent dans ton récit? Quelle importance ont-elles dans cette fiction?
C'est la deuxième partie du livre. En fait, il y a une seconde histoire. Il y a une histoire d'amour. Il y a un duel. Il y a un petit peu de violence et beaucoup de surréalisme. Et les roses, pourquoi? Parce que justement, lorsqu'il est libre, lorsqu'il a un petit peu d'argent, il va essayer de parcourir le monde. Ce personnage qui s'appelle Monsieur Pierre Desrochers va donc partir en Irak, au Maroc, en Chine, trouver la rose ancienne, la véritable rose, la plus belle rose. Et de là, il va créer des parfums, il va partir. Il y a aussi de l'aventure, il y a il va rencontrer des corsaires, des choses un peu drôles, des personnages étonnants, très imagés.
Va-t-il rencontrer Ronsard?
Ronsard est une... pourquoi pas? Puisque Ronsard, comme vous l'avez pu le lire dans la préface, eh bien, écoutez, vous êtes à propos, puisque la préface est l'ode, un coup l'on connaît tous, l'ode de Ronsard. Mignonne, allons voir si la rose.
Ce matin avait déclos.
Écoutez, je vais vous laisser, justement, ce serait très bien que vous puissiez le lire.
Bien sûr.
Mais absolument, et je le souhaite. Gaïa, ah oui, absolument, s'il vous plaît, monsieur.
Bon, je veux bien vous lire.
C'est encore un Pierre.
Je reviens, vous êtes.
Je reviens.
Oui.
Alors. Donc, voilà, je me soumets au désir trop marqué. Mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait déclose sa robe de pourpre au soleil a point perdu cette vesprée, les plis de sa robe pourprée et son teint au vôtre pareil. Mais ça continue, il n'y a pas tout là. Mignonne, mignonne, voyez comme un peu d'espace elle a dessus la place sa beauté laissée choir. Oh, vraiment marâtre nature, puisqu'une telle fleur ne dure que du matin jusqu'au soir. Je vous ai eu là.
Très bien, Pierre.
Mais je suis désolé, je me suis un peu planté dans le début du deuxième couplet. Voilà.
Je te le rends. C'est absolument. Merci. C'est divin, c'est magistral. Je remercie vraiment votre façon de lire, de poser les mots et de les entendre, parce que nous les avons entendus à travers vous.
Alors là, vous me faites un bonheur. J'ai pas tout à fait compris ce que vous émettez là. Pardon, j'ai pas tout à fait compris ce que vous avez émis comme idée, mais j'en ai été séduit.
Voilà. Donc oui. Pierre, qui est bien sûr qui anime Radio Cyrnéa depuis des années, hein, il participe. Il y a des fois il est plus virulent, des fois moins. Ça dépend. Ça dépend les sujets. Hein. Voilà. Hein.
Oui.
Eh ben, il y a des pirates.
Et en fait, il y a des pirates. Vous avez une aventure, en fait. Vous avez tout un tas de... Mais je tiens à dire, parce que parfois, effectivement, si vous voyez la première de couverture, vous allez voir une rose, tout simplement, sans épines. Mais ce n'est pas un roman particulièrement botanique. C'est particulièrement, je pense, quand j'ai voulu l'écrire, quelque chose qui est presque fantomatique, surréaliste. C'est une histoire d'amour à l'intérieur de ça, quelque chose de fort. Il y a même des gens qui vont se battre pour retrouver l'amour et pour une question d'honneur, comme à l'époque, il y avait une question d'honneur. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre d'un roman d'époque. Mais bien sûr, surréaliste. Surréaliste, pourquoi ? Parce que la fin, le poids le décrit. Hein. D'ailleurs, je vais vous présenter Mylève, qui a lu le roman Monsieur Rose, des éditions Maya, et qui peut en parler peut-être mieux que moi, d'ailleurs. Mylève, oui. Mais à vous, Mylève.
Merci. Ce qui m'a beaucoup touchée, c'est le côté, c'est ce perpétuel mouvement qu'il y a du début à la fin, c'est-à-dire qu'en fait il y a aussi bien un mouvement dans l'espace, dans le temps, et le mouvement, tous les gestes, toute la gestuelle, eh bien que ce soit des vendeurs, des calicots, c'est bien ça, et ce mouvement, enfin cette recherche, ce mouvement d'un continent à l'autre, on a l'impression toujours qu'il y a une espèce de ballet incessant, et c'est ce qui donne vraiment un rythme et de la vie à ce roman. C'est ce qui m'a énormément touchée. Voilà. Ainsi que l'humanisation des fleurs, c'est-à-dire que Jean-Claude Lemonnier a humanisé ces fleurs. Donc ce ne sont pas uniquement des fleurs et des roses, mais ce sont des êtres à part entière. Et c'est peut-être ça qui fait la richesse aussi du récit. Enfin, je demande à l'éditeur, je demande à Pierre-Antoine de me communiquer son impression.
Non, mais tu as bien résumé. C'est un livre plein de poésie. Et bon, Jean-Claude était un peu gêné.
Ça se termine sur la haie et les roses.
Et alors, en effet, oui, il y a un rapport à cette ville. D'ailleurs, il va faire une signature à la Haie des Roses dans peu de temps, puisque son personnage, est un inventeur de roses, en fait. C'est ça. Il l'a pas encore bien développé, mais c'est un créateur de fleurs. Et je crois que dans cette métaphore du créateur de fleurs, il a voulu dire beaucoup. Notamment, il va nous expliquer là comment. À travers ce personnage qui est un faiseur de fleurs, ou comment tu pourrais définir ça. Moi, je me demandais si c'était pas une métaphore, ce personnage qui crée des fleurs.
Je pense que c'est plus une forme de destin pour cet homme. Il ne sait pas vraiment qui il est au début, il est simplement vendeur. Mais non, c'est pas une métaphore. C'est quelque chose qui... Il est sans pétales et il va devenir une des roses les plus belles, puisqu'il va créer aussi la roseraie de la Haie des Roses, qui est l'une des roseraies les plus belles d'Europe.
Oui.
Et je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais je tiens quand même à vous dire que c'est pas vraiment la rose qui est importante dans ce livre pour moi. Ce qui est important, c'est les relations humaines, les sentiments, les approches que l'on fait des gens parfois et qui peuvent se décrocher ou se raccrocher, comme des lampes d'ambiance, comme des petites boules de cire qui se défont et se refont. C'est un hymne à l'amour, c'est un hymne à la rose, c'est un hymne, je pense, aussi à des gens que j'ai beaucoup appréciés, André Breton, Paul Éluard, mais aussi des gens aussi qui sont différents, qui aiment la poésie, qui savent jouer avec les mots, qui savent imaginer des personnages et des visages, qui savent que l'humanité est là, qu'elle est parmi nous, et que de toute façon, il y a toujours au début le début, il y a toujours à la fin une fin. Et cette fin, je la trouve belle pour une raison, que c'est un objet tatoué. Mais vous pourrez voir si un jour vous avez la capacité ou l'avantage de pouvoir offrir des roses à quelqu'un. Sachez que les roses ont toutes, absolument, selon leur couleur, leur nombre et leur message, un message à donner à tout le monde et à l'humanité. Mylève, à toi.
Bien, écoute, je suis ravie de ce que tu viens de dire.
Sur les roses.
Donc oui. En fait, on naîtrait peut-être de roses, je ne sais pas si Jean-Claude est d'accord avec moi. Est-ce que l'on peut naître d'une rose et mourir dans une rose et se réincarner dans une rose et être juste une rose et que tous les individus soient sur cette planète un rosier, forme un rosier?
C'est pas un rosier dont il s'agit en fait, c'est plus une... Une rose, il y a des roses qui n'ont aucune odeur. Vous pouvez les sentir, mettre le bout de votre nez sur une rose. Elle a beau être très jolie, elle n'aura pas d'odeur. Il y a des roses qui sont plutôt flétries. Même parfois, j'en connais certaines un peu fanées, qui donnent leur essence. Et c'est l'essence même de mon roman. C'est-à-dire que je pense que l'essence même de la rose n'est pas forcément l'esthétisme, mais plus l'odeur de ce qu'elle peut provoquer chez les êtres, chez les gens, chez les humains, chez les hommes, chez les femmes, chez les hommes. Parce que pour moi, il n'y a pas d'ordre classique pour ça. C'est juste une impression. Je laisse parler le monsieur qui a eu l'honneur de nous déclamer tout à l'heure avec talent l'aude de Ronsard. À vous, monsieur, et merci.
Et qu'aimeriez-vous que je dise? Dites-moi ce que vous voulez que je dise, je dirai ce que vous aurez aimé que je sache dire à l'égal de votre talent à dire les choses.
Le talent n'est pas forcément un talent d'Achille. Je pense qu'il est plutôt... Il est dans votre poésie. J'ai vu que vous aviez les mots à propos, même si ce sont ceux de Jacquine du Bellay, par exemple, ou de Ronsard.
Oui.
Mais
je
souhaiterais que vous me posiez des questions par rapport à un livre que vous avez lu.
J'ai lu un livre récemment, je vous poserai des questions, mais encore faudrait-il, puisque c'est de poètes, de poésie que vous parlez,
oui.
Encore faudrait-il que ceci soit passé dans l'esprit de tout un chacun. Je vais prononcer un titre de livre qui peut faire bondir des tas de gens actuellement, mais que ce titre soit apprécié en raison de l'époque où elle a été écrite, où les mots n'avaient pas forcément les mêmes significations qu'aujourd'hui. L'auteur s'appelle Georges Fourest. C'est un poète. Le connaissez-vous? Il a écrit différentes œuvres de poésie, dont Le géranium ovipare, et il a écrit La négresse blonde. Vous connaissez La négresse blonde? Et il a écrit pas mal d'autres choses. Mais je ne parlerai pas de lui. Simplement, j'ai parcouru à toute vitesse votre livre et il y a une chose qui m'a sauté aux yeux et qui m'a suscité quelques interrogations. C'est que vous donnez des points, des détails précis sur une période où Paris et la France est en un énorme changement comme on n'imagine peut-être pas aujourd'hui, si bien que savoir quelqu'un habite boulevard Pereire, est-ce que le boulevard Pereire existait à cette époque, quelqu'un habite... Et tout ça, ça a dû susciter de votre part des recherches pour ne pas être soumis à la critique en disant vous êtes trompé à la page 32, à la page 35, à la page 36. Connaître cette période et imaginer que quelqu'un puisse grimper dans l'échelle sociale aussi vite que M. Desrochers, je pense que mettre tout ça en vérité dans ce quartier du 7e arrondissement où est le bon marché toujours, ça a dû vous demander énormément de recherches et des documentations très fortes. Et après, si vous êtes content, je vous réciterai une poésie de Georges Fourest.
Oui, je ne suis pas un documentaliste, je ne suis pas un spécialiste non plus du père Grossmanien. Évidemment, ça a demandé beaucoup de recherches. Il a fallu aussi faire avec ce monsieur qui s'appelait Napoléon, mais pas le premier évidemment, mais Napoléon III, qui était un personnage truculent, qui a quand même fondé au début la République et qui a continué à être un royaliste exacerbé. Et le baron Haussmann qui a fait de Paris aujourd'hui ce qu'on connaît en majorité, parce que tout Paris aujourd'hui du monde du Moyen Âge, etc., il n'y en a que des petits bouts, des ersatz, et en banlieue parfois on en trouve aussi, notamment Arcueil, où je passe parfois, où il y a encore des choses aussi belles que celles de Lutèce. Parfois, j'ai bien dit parfois. Oui, ça a demandé beaucoup de travail, de recherche. Mais je ne pense pas qu'il faille penser que ce soit vraiment un roman d'époque historique. Et c'est plutôt axé sur la botanique, mais aussi et encore sur cet esprit, surréaliste et ce duel et cette histoire d'amour auquel va surgir quelque chose d'incroyable. Cet homme va être poursuivi. Il va être poursuivi même sur les bateaux, même chez les corsaires. Même chez les gens atypiques, on l'appellera plus Pierre de Rocher comme il était, ce jeune homme. On l'appellera Monsieur Descailloux.
Descailloux, voilà.
Et là, on met quelque chose de populaire aussi. Je n'ai rien contre l'intellectualisme, mais j'aime aussi les gens populaires. J'aime les gens qui peuvent raconter des histoires simplement, habituellement, qui font rire tout le monde autour d'une table parfois. Et on peut rire avec ce corsaire. Et cette amitié va naître au-delà de monsieur et de madame Boussicot. Ce corsaire va l'emmener. Ce corsaire a un petit chimpanzé sur son bras avec une chaîne. Il s'appelle Cacahuète. Et ce personnage, parce que j'appelle ça un personnage, oui, c'est un personnage, ce petit singe va aussi donner son humanité aux êtres humains. Le voyage est beau. On va au Maroc. On parle du moussem. On parle des odeurs. On parle de gens. À cette époque, bien sûr, mais c'est encore possible aujourd'hui, et bien sûr, et heureusement, avec une humanité incroyable, avec le côté oriental qu'on connaît, qui est parfois absolument admirable aussi. Le soleil y est beaucoup, hein. Le soleil est beaucoup pour tout ça. Le soleil, c'est un astre, évidemment qu'il est solaire. Mais il donne l'humanité. Je préfère toujours le soleil au ciel gris. Et le soleil est un astre qui n'est pas lunaire. Donc, il fait chaud. Tel propos. Mais il y a une.
Méfiez-vous.
Oui, mais il y a une.
Vous connaissez Georges Forest.
Mais il y a aussi une forme de. Il y a une forme aussi, excusez-moi de vous interrompre, une forme de nébulosité. Hein. C'est-à-dire, quand je parle du soleil et de la lune, il y a des ambiances. La chaleur, mais on peut aussi refroidir les plats. On peut aussi refroidir les ambiances. Parce qu'il y a des duels, il y a un duel. Il y a quelque chose qui va se passer. C'est la fantasmagorie même de ce roman. Sur le surréalisme. Oui. Je ne peux pas vous en dire plus, sinon je vous raconte mon livre. Oui. Allons passer donc la parole à mon ami qui est en face de moi.
Attends, je prends, c'est bon. Merci. Merci Jean-Claude Lemonnier. Hein. Pierre-Antoine, tu as autre chose à dire ?
Non, mais j'attendais.
Sur ce livre, on va.
Non, mais écoute, c'est un très beau livre. Là, il semble un peu mystérieux, en effet, par les choses qu'on en a dites, mais vraiment, c'est une histoire qui se lit bien, qui est très. Très prenante, et on en apprend beaucoup sur l'histoire des roses et aussi sur cette époque du Paris du 19e qui se transforme, comme vous l'avez dit. Et donc, voilà, à tous les amateurs, faut pas hésiter.
Corinne, on va te faire dire deux mots sur les roses. Qu'est-ce que tu peux dire ? Rapproche-toi plus du micro.
Hein ? Moi, j'aime bien qu'on me les offre.
Voilà,
j'aime bien les fleurs. Donc,
hein ?
Voilà, donc,
voilà, tu vois, donc, j'ai vu quand on t'offre les fleurs, hein, tu peux regarder suivant qu'est-ce qu'on t'offre.
Ah oui, d'accord. Hein? La signification du nombre de roses offertes. Oh, bah, c'est intéressant.
Tu vois ?
Je ne connaissais pas. Donc, oui, c'est intéressant.
Voilà. Donc, à très bientôt, on organisera une signature. Pardon. Quelque chose.
Corinne, juste un petit mot. Combien de fleurs, combien de roses aimez-vous que l'on vous offre ?
Moi, même parfois, même parfois qu'une. C'est
une
pas
rose.
Noté. Oui, c'est pas noté.
Oui, mais alors une, la rose rouge unique parle d'un amour unique et sans partage, d'un amour éternel. Donc là, c'est très difficile ce que vous dites là.
Ouais, oui.
Les roses blanches, les roses roses.
Mais moi, une rose.
Une rose.
Voilà, merci.
Voilà, donc merci pour ce, pour cette, oui, pour ce moment de rose, entouré de mille roses. J'avais une petite anecdote assez amusante. C'était la rencontre entre, je ne sais pas si c'est Steve McQueen ou Dustin, non, c'est pas Dustin Hoffman, c'est Paul Newman. Enfin, je ne sais plus. Un acteur très célèbre qui s'était fait méchamment viré par sa conquête et qui, en fait, avait mis je ne sais combien de roses dans une poubelle devant sa porte. Et, ça, et en fait, il a eu son cœur. Donc voilà, le pouvoir des roses. Parlons de ce pouvoir des roses.
C'est le pouvoir des roses.
Avant d'entendre ce magnifique poème...
Je n'ai pas lu le livre, j'ai juste feuilleté, vu deux, trois pages, mais j'ai vu à la fin cette chose très forte. Vous avez écrit la méthode assimile du langage des roses.
Absolument. Oui.
Et c'est quelques pages donnant la signification des roses selon la couleur, des roses selon le nombre et tout, montre qu'il y a, qu'on peut faire sans le vouloir de la poésie avec ce que l'on offre.
Absolument. Bien, bah écoute, notre émission, vous vouliez dire autre chose.
Un petit poème pour, c'est sans rapport avec ça, un poème de Georges Forest.
Allez,
c'est sans rapport avec ça.
Nous le souhaitons.
Non, mais bon, alors voilà. Hein? Le palais de Gormaz, comte et gobernador, est en deuil. Pour jamais d'or couché sous la pierre, l'Hidalgo, dont le sang a rougi la rapière de Rodrigue appelé le Cid Campeador. Le soir tombe. Invoquant les deux saints pour les pierres, Chimène envoie le noir s'accoude au mirador. Et ses yeux, dont les larmes ont brûlé la paupière, regardent sans le voir mourir le soleil d'or. Mais un éclair soudain fulgure en sa prunelle sur la plaza Rodrigue et debout devant elle, impassible et hautain, drapé dans sa capa, le héros meurtrier à Palan se promène. Dieu soupira par soi la plaintive Chimène, qu'il est joli garçon, l'assassin de papa.
Merci Pierre. Ça vous a plu? Merci Pierre.
Alors, que je précise que ce poème est de Georges Forest, qu'il a été écrit avant 1914. Et qu'il est extrait d'un recueil qui porte double titre, qui s'appelle « Le géranium ovipare et la négresse blonde ».
Ti ringrazio, gran amigo. Oui.
Je dirais aussi que si j'ai éprouvé le souci de dire ce poème, c'est que il m'est venu à l'esprit en regardant le livre de Jean-Claude Monnier, Monsieur Rose, et en regardant la fin. Et je me suis aperçu, alors, quelle était la force que pouvaient avoir les mots ou l'idée des mots par rapport à des choses que l'on pouvait sentir, et ou lire, et autres. Et cette Chimène devait être une sacrée rose.
Thierry Grasse, on te remercie beaucoup. Radio Cirnéa vous dit à très bientôt. Hein, Pierre-Antoine. Jean-Claude, Mille Lèvres, tout un programme.